une autre vie s'invente ici.
Une autre vie s'invente ici.
L'équilibre énergétique en question.
Énergie renouvelable,
bâtiment,
transport,
sobriété énergétique,
économie circulaire.
On en parle dans cette émission coproduite par Radio Larzac, Radio Sainte-Afrique et le Parc naturel régional des Grands Causses.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Larzac et de Radio Sainte-Afrique pour cette nouvelle saison de l'émission « Une autre vie s'invente ici ». Dans cette nouvelle saison, qui à raison d'une émission par mois nous mènera au mois de mai, nous allons explorer les thématiques liées à l'équilibre énergétique sur le territoire du parc naturel régional des Grands Causses. Il sera question dans cette série d'émissions des moyens mis en œuvre pour parvenir à équilibrer la quantité d'énergie consommée en relation avec la quantité d'énergie produite sur le territoire. Aujourd'hui, l'énergie consommée sur le territoire du parc correspond à 2200 gigawattheures, alors que l'énergie produite correspond à 800 gigawattheures. L'objectif à atteindre a été fixé à 1400 gigawattheures dans un équilibre entre production et consommation. Pour cette première émission de la série, nous avons souhaité savoir dans quel contexte général s'inscrit cette démarche, notamment à l'approche de la COP21 qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre prochain. Nous avons aussi voulu dresser un inventaire des actions entreprises sur le territoire, notamment avec le plan climat-énergie territorial depuis 2009. Et enfin, savoir ce qu'il est possible de mettre en œuvre, notamment dans le cadre de la Convention territoire à énergie positive pour la croissance verte, signée en juin dernier entre l'État et le Parc naturel régional des Grands Causses. Et pour ce faire, nous avons réuni autour de la table Florent Taris, directeur général des services du Parc naturel régional des Grands Causses. Bonjour.
Bonjour.
Et Christian Brugier, de la direction départementale du territoire. Vous êtes référent développement durable. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je me tourne vers vous en premier lieu, Monsieur Brugier. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est la COP21 et ce que prévoit la loi en matière de transition énergétique ?
Donc, comme vous venez de le préciser il y a quelques instants, la France va accueillir et présider du 30 novembre au 11 décembre 2015 la 21e conférence des parties, appelée communément la COP21. Cette conférence des parties se réunit annuellement dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui a été adoptée au sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992. Pour information, elle a eu lieu en 2014 à Lima et sera organisée en 2016 par le Maroc. Cette conférence devrait réunir 196 pays et 40 000 participants sont attendus. L'objectif de ce grand rendez-vous mondial sur le climat est d'aboutir à un accord international applicable à tous les pays visant à maintenir le réchauffement climatique mondial en deçà de 2 degrés d'ici à 2100. Ce challenge est d'ampleur puisque les experts considèrent que pour obtenir cet objectif, il conviendrait dès 2020 d'arriver à maintenir les émissions de gaz à effet de serre à leur niveau actuel. D'autre part, à échéance 2050, de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50%. Et d'autre part, d'ici la fin du siècle, que les émissions nettes soient nulles. En clair, que les émissions produites par les industries, les transports, etc., soient totalement absorbées par les océans et les forêts. À l'occasion de cette COP21, chaque pays devra rendre publique sa contribution à l'échelle nationale, tant en termes d'atténuation, c'est-à-dire se fixer des objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre, et également en fixer les échéances, également préciser le plan d'action qui permettra d'atteindre ces objectifs, et également en matière d'adaptation, c'est-à-dire arriver à expliquer comment réduire la vulnérabilité du milieu naturel et des hommes devant ce réchauffement climatique, dans des domaines tels que l'eau, les risques, la construction, l'urbanisme pour les pays qui et l'agriculture.
Et en l'occurrence, qu'est-ce que la France a choisi de rendre public dans cette matière ?
La France devra montrer son exemplarité et son engagement en matière de réchauffement climatique et d'efficacité énergétique, puisqu'elle organise. Elle est déjà largement engagée dans cette démarche, en particulier depuis 2004 avec le plan climat, et en 2009 et 2010, les lois Grenelle 1 et 2. Mais la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte et les plans d'action qui y sont associés va donner un coup d'accélérateur et contribuer efficacement à l'action de notre pays à la lutte contre le dérèglement climatique. Dans le cadre de cette loi sur la transition énergétique, la France s'est fixé des objectifs. En particulier, à l'échéance 2030, diminuer les gaz à effet de serre de 40% par rapport à 1990, diminuer les énergies fossiles de 30% par rapport à 2012, et à ce qu'à l'avenir, un tiers des énergies consommées soient des énergies renouvelables. Il envisage aussi, à l'échéance 2050, une diminution de 50% de la consommation totale d'énergie et réduire les gaz à effet de serre de 75% par rapport à 1990. Il faut savoir que cette réduction de 75% était déjà évoquée dans le cadre du plan climat 2004, ce qu'on avait appelé le facteur 4. En 2025, la France s'engage aussi à ce que moins de 50% des déchets soient mis en décharge, le reste étant recyclé dans le cadre de l'économie circulaire. Également, en 2000...
Actuellement, on est à quel niveau de ça, à peu près ?
En termes de mise en décharge, 25% à peine.
D'accord.
Non, 75% plutôt, 25% oui. De retraités, pardon.
Également, en 2000... L'objectif, c'est de doubler le traitement des déchets.
Voilà.
Par rapport à ce qui
le recyclage,
se fait actuellement.
En 2025, la part du nucléaire sera ramenée à 50%. Aujourd'hui, elle est de 75%. C'est également un des objectifs. La loi sur la transition énergétique, bon, d'ailleurs qui a été adoptée le 17 août 2015, souhaite apporter une contribution plus efficace à la lutte contre le dérèglement climatique, ce que je viens d'évoquer, renforcer l'indépendance énergétique de la France, avoir un impact économique avec la création d'emplois verts, lutter contre la précarité énergétique, et également mobiliser l'ensemble des acteurs sociaux, économiques, industriels et des collectivités pour atteindre ces objectifs. Elle concernera les thématiques comme le bâtiment et le logement, avec en particulier les rénovations énergétiques 500 000 logements. Elle renforcer les performances énergétiques des nouvelles constructions, tout BBC en 2050, et créer 75
BBC 000 emplois. BBC, c'est bâtiment en basse consommation.
Oui, pardon. Utilisation de sigle. Les thématiques mobilité devront être également abordées, avec renforcer la lutte contre la pollution de l'air et réduire notre dépendance aux hydrocarbures. Et le remplacement de parts de véhicules par des véhicules à faible émission, avec la création de 7 millions de points de recharge électrique d'ici 2030. Également, bon, mais je viens de l'évoquer tout à l'heure, les notions d'énergie et d'énergie renouvelable, avec la multiplication par 2 de la part des énergies renouvelables d'ici 15 ans. Ensuite, en termes d'aménagement du territoire, et également des déchets, avec les notions d'économie circulaire et de la gestion durable des déchets. Et là-dessus, je pense que le PNR pourra évoquer une étude qu'elle a entreprise dans cet objectif-là. La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte vise particulièrement 3 catégories d'acteurs. Tout d'abord, l'État et les collectivités locales, qui devront être des acteurs facilitateurs et porteurs de la transition énergétique, en particulier au travers de l'appel à projet « Territoire énergie positive pour la croissance verte ». Les entreprises, au travers de leur process et de leur mode de faire, et également chacun d'entre nous, dans le cadre de sa vie quotidienne. Donc je viens d'évoquer tout à l'heure l'appel à projet TEPCV, « Territoire énergie positive pour la croissance verte ». Il faut savoir que c'était un des objectifs de l'article 188, excusez-moi d'être aussi précis, du projet de loi sur la transition énergétique, qui prévoyait que 200 expérimentations de territoires à énergie positive soient lancées depuis 2017. Mais alors que la loi était encore en cours de discussion et compte tenu du volontarisme de certains territoires en la matière, le gouvernement a lancé dès l'automne 2014 l'appel à projet 200 territoires à énergie positive pour la croissance verte, afin d'accélérer ce mouvement. L'objectif de cet appel à projet était de valoriser et d'encourager les initiatives territoriales de progrès énergétique et environnemental en stimulant les projets et par le développement économique favorisant une croissance durable et des emplois pérennes sur les filières d'avenir. On estimait que ça pouvait créer environ 100 000 emplois sur 3 ans. Les actions qu'on attendait de cet appel à projet concernaient la réduction de la consommation d'énergie entre le bâtiment et les espaces publics, avec bon, bien entendu les travaux de rénovation énergétique des bâtiments, avec la mise en place de plateformes de conseil et l'amélioration de l'éclairage public avec les modifications de type de lampes, etc. Deuxième domaine qu'on souhaitait voir abordé dans le cadre de TEPCV, c'était diminuer les émissions de gaz à effet de serre et les pollutions liées au transport, en renouvelant les flottes automobiles par des véhicules propres et en créant des pistes cyclables et des aires de covoiturage. Ce sont quelques exemples qu'on a pu retrouver dans divers projets soumis par les territoires. Également, développer l'économie circulaire et la gestion durable des déchets. Produire des énergies renouvelables locales, avec en particulier le développement des réseaux de chaleur et de la filière biomasse. Également, préserver la biodiversité de façon à promouvoir un urbanisme durable, adapté aux risques, à la biodiversité, au changement climatique. Et également, tout ce qui est démarche zéro pesticide, qui est rentré dans le cadre de cette préservation de la biodiversité. Et enfin, un des points importants, c'était développer l'éducation à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, tant vis-à-vis des scolaires que de l'ensemble des citoyens. Et là-dessus, le PNR pourra apporter toute son expérience en la matière.
Donc on a bien compris que le conventionnement territoire énergie positive pour la croissance verte était un des outils dont l'État avait souhaité se doter dans le cadre de la loi de transition énergétique. Alors dans le préambule de la convention qui est générale, hein, c'est-à-dire pas seulement la convention signée avec le parc, mais toutes les conventions qui ont été établies et qui seront établies dans le futur, il est notamment précisé que donc l'objectif c'est d'atténuer les effets du changement climatique pour que la France soit exemplaire lors de la conférence climat de Paris donc, cette année. Encourager, donc, vous l'avez dit, la réduction des besoins d'énergie et développement des énergies renouvelables locales. Et faciliter l'implantation des filières vertes dans le cadre d'un développement des emplois également. Mais alors, la question qui peut venir, c'est que va-t-il se passer une fois que la conférence COP21 sera terminée ?
Considérer la COP21 que comme une étape. D'ailleurs, lors de cette COP21, sont définies des échéances à 2020, 2030 et 2050, voire 2100, avec des objectifs chiffrés. Donc en aucun cas, la COP21 est une fin en soi. Elle constitue une étape vers ces échéances. Et comme je l'ai précisé au départ, il y aura une COP22 et d'autres ensuite. Je ne sais pas si ça répond à votre interrogation.
Oui, c'est-à-dire que là, il y a une étape, on va dire, mais que tout ce qui est entrepris, la COP21, c'est pas l'aboutissement du processus, c'est simplement une étape.
D'accord. Tout à fait.
Très bien. Florent Taris, donc je rappelle que vous êtes directeur général des services du Parc naturel régional des Grands Causses. Je me tourne vers vous à présent. Pourquoi est-ce que le parc s'est inscrit dans cette démarche territoire et énergie positive pour la croissance verte ?
J'écoutais avec application les propos de Monsieur Brugier et j'avais l'impression d'avoir mon plan de travail quotidien qui était décliné. Comment le parc naturel régional des Grands Causses ne pouvait pas être au rendez-vous de territoire énergie positive et croissance verte. Nous sommes sur un territoire que certains appellent béni des dieux en termes d'énergie et pourtant, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on produit 800 gigawatts d'énergie sur ce territoire, ce qui est énorme, et pourtant, on n'est même pas autonome à 40%. Donc si chez nous, on n'est pas autonome, alors qu'on est peu d'habitants, enfin, on pourrait, vu de loin, croire qu'on est à l'autonomie. D'ailleurs, il y a même des autochtones qui sont persuadés qu'on est à l'autonomie énergétique. On n'y est pas. Et nous, on a cette ambition d'y arriver. On a l'ambition d'y arriver, ça renvoie au précepte de la charte. Alors la charte, quand elle a été faite, il y a une dizaine d'années, on n'avait pas les mêmes discours ou les mêmes thématiques qu'aujourd'hui, mais c'était les mêmes objectifs. Préserver la biodiversité, et la biodiversité, elle ne s'arrête pas aux portes du parc. On a un rôle à jouer dans l'humanité, dans le pays, dans le continent, etc., dont on doit contribuer. Et territoire énergie positive et croissance verte, c'est des moyens simple, efficace à mettre en œuvre pour que justement ce que vous craignez n'arrive pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas une sorte de feu de paille qui, une fois les caméras parties au lendemain du sommet de la COP21, eh bien, tout s'arrête. Toutes les actions qui sont promues aujourd'hui dans la Convention territoire énergie positive, c'est des actions dont c'est un point de départ. C'est-à-dire qu'on va engager des actions. J'en prends une au hasard. On va créer une filière sur l'énergie bois. L'objectif, c'est que demain, d'ici le printemps, on aura un outil, c'est une société à capitaux publics, qui va développer les réseaux de chaleur à énergie bois. c'est un début. La société, elle aura besoin de fonctionner. Donc, elle va poser des jalons, elle va poser des chaudières au bois. Résultat, elle va appeler une production de bois en fonction d'énergie, donc soutenir une activité sur le territoire et décarboner l'énergie. Et donc, on aura réussi. Mais ça, on l'aura réussi parce qu'à un moment, on aura le petit coup de pouce de la Convention Territoire Énergie Positive qui nous aura permis de créer. Vous avez évoqué l'économie circulaire. Aujourd'hui, on peut être des symboles nationaux, voire européens, de l'économie circulaire. Autour de la brebis. Hein, la brebis, sur ce territoire, on a pris l'habitude historique et qu'elle faisait surtout du lait. Bon, derrière une brebis, il y a beaucoup de choses. Il y a de la laine, avec plusieurs utilisations de la laine. On travaille sur un projet innovant avec M. Roumiguet sur la valorisation de la laine en fil. Et donc, demain, en tissage divers et variés. On sait qu'il y a une partie de la laine qui, de par une fibre trop courte, ne peut pas être utilisée, mais on peut l'utiliser dans des fins d'isolation. Résultat, on est dans l'économie encore plus circulaire, puisque l'isolation va permettre de réduire la consommation d'énergie. On a aussi la viande, avec tout ce que ça comporte. Et donc, derrière la brebis, quand elle est encore vivante dans les étables, ben on peut développer la méthanisation et l'énergie méthanisation. Vous voyez, on est au cœur du système. C'est un sujet absolument passionnant parce qu'on pourrait faire 6 heures d'émission et trouver des exemples toujours variés si on a un objectif. Parce que l'enjeu, c'est de ne jamais oublier l'objectif. Vous l'avez dit en préambule, notre objectif, c'est atteindre l'autonomie énergétique. L'autonomie énergétique, ça veut dire beaucoup de choses.
Alors, il faut peut-être préciser que pour nos auditeurs, quand on parle d'autonomie énergétique, il ne s'agit pas d'autosuffisance énergétique.
Exactement, j'allais y venir. L'idée, c'est que on a plusieurs entrées sur ce sujet. La première entrée, j'ai envie de dire, qui pourrait être évoquée au journal de 20h de n'importe quelle émission, c'est tous les mois, on nous annonce le déficit commercial de la France. Comme quoi on doit payer pour acheter des choses. Il faut savoir que le déficit commercial de la France est autour de 60 milliards, le déficit énergétique est de 65 milliards. Donc l'autonomie énergétique aujourd'hui, ça commence par là. Économiquement, qu'on soit autonome. C'est aussi un enjeu diplomatique. Ouais, vous savez, il y a certains chefs d'État de l'Est de l'Europe qui, demain matin, peuvent jouer sur les gazoducs, etc. Donc on est dans l'autonomie énergétique. Et ensuite, quand on n'est pas autonome énergétiquement, qu'est-ce que c'est qu'on importe ? Des énergies extrêmement carbonées. Donc du coup, s'autonomiser aujourd'hui, on sait, la France a été claire là-dessus, quelles que soient les majorités nationales, contre le gaz de schiste. On n'est pas dans l'exploration de pétrole sur notre territoire. Donc ça veut dire qu'on a, si on veut être autonome énergétiquement, quelle que soit la raison, on est obligé d'aller vers des énergies propres. C'est une obligation. Et les deux lois qui viennent d'être votées sur la biodiversité et la transition énergétique l'ont gravé dans le marbre. Donc à partir de là, on doit aller à l'autonomie. Sur un territoire comme le nôtre, on a des avantages et des inconvénients. Par exemple, on a un inconvénient majeur, c'est qu'à peu près un tiers de la dépense énergétique, c'est les transports. Si on veut avoir un territoire qui continue à y avoir des habitants aux quatre coins du territoire du parc, on sait que les déplacements seront plus importants que si on était une ville, une conurbation. Donc ça, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'on sera, quoi qu'il arrive, dépendant, entre cas je dis dépendant, de besoins importants en transport. Hein. On a une densité de 20 habitants au kilomètre carré. Sur l'Arzac, c'est beaucoup moins, etc. Donc ça veut dire qu'il faut que sur certains sujets, sauf si on bascule sur l'électrique, on a un certain nombre d'outils, on sait qu'on ne va pas y arriver en 10-15 ans à basculer toute la flotte automobile, la décarboner. Ça veut dire qu'il faut que sur d'autres sujets, on soit un peu plus vertueux. Je ne sais pas si je suis clair.
Oui, non, mais là, ça, par exemple, en termes d'habitat...
Donc ce n'est pas l'autosuffisance.
Oui, oui.
C'est pour répondre à l'autosuffisance, sur certains sujets, on ne peut pas l'avoir. Sur d'autres sujets, on l'a. Sur l'électricité, on pourrait y arriver. On pourrait y arriver à terme. Mais on aura d'autres points où on sera toujours... Donc si on se dit... Vous comprenez à qui je fais référence. Certains disent qu'il y a assez d'électricité, donc il ne faut plus en produire sur le territoire. Ok. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on produise du pétrole. Je fais un peu de provocation dans cette question-là. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve... Notre objectif, c'est que l'énergie qu'on produit, on en produise autant. Si tous les territoires font cela, chacun a ses atouts et ses inconvénients, ben on tendra une forme d'autosuffisance. Alors après, les sources... Les sources de consommation sont importantes parce que M. Brugier a décliné tous les objectifs. Les, 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 Les gens qui sont perplexes sur cette démarche pointent toujours. Oui, mais vous dites que vous voulez que 50% d'énergie nucléaire à l'horizon de temps. Le problème, c'est si on continue toujours à consommer plus, il faudra tout, le nucléaire va augmenter. Donc c'est là où je voudrais être très, très pointu. La première orientation de l'objectif TEPCV du parc, c'est réduire la consommation de près d'un tiers. C'est pas anecdotique.
Alors, est-ce qu'il est plus facile de passer de 2200 gigawatts de consommation à 1400 ou de passer en production de 800 à 1400 ?
Techniquement parlant, économiquement parlant, il est beaucoup plus facile de passer de 800 à 1600 ou même à 2000 que de réduire. La consommation, c'est la chose la plus dure parce que la consommation d'énergie, c'est aussi les habitudes des uns et des autres.
Justement, vous parliez d'habitat tout à l'heure. En termes d'habitat, on continue à avoir, dans les pratiques, et, il ne s'agit pas de jeter la pierre à quiconque, mais d'avoir un mitage territorial qui disperse l'habitat.
Alors, ouais, mais si vous voulez, c'est là. Après, vous savez que le territoire du parc est en pleine réflexion sur le schéma de cohérence territoriale. Je peux vous assurer, on peut amener des dizaines d'élus qui se battent pour qu'on continue à avoir du mitage sur le territoire. Parce que ne plus avoir de mitage, entre guillemets, parce qu'il y a... Pas plus tard que ce matin, avec mes équipes du parc, on avait un débat sur le thème du mitage. Est-ce qu'avoir des fermes séparées, c'est du mitage, ou le mitage, c'est uniquement la maison isolée. Donc, il y en a une qui est souhaitable, d'autres peut-être moins souhaitables. Une fois de plus, il y a des zones du territoire. Si demain, on peut faire de la concentration. Effectivement, on gagne en économie rapide. Mais le problème, c'est un territoire qui se vide. C'est une activité agricole qui se perd. Donc, je prends rarement des positions très fermes, mais nous, on considère que la diversité de l'habitat, la faible densité de population, c'est la chance de ce territoire, donc il faut faire avec. Il faut faire avec. Sur l'habitat, si vous voulez, il faut dire l'habitat et les activités tertiaires, c'est à peu près deux tiers de la consommation énergétique. La difficulté, c'est qu'on a à peu près 80 à 90% des logements qu'on habitera en 50 ans qui sont déjà construits. C'est-à-dire, on ne va pas raser Millau, on ne va pas raser tout le Larzac, etc. Donc, c'est aller travailler sur une ambiance existante pour tendre à des économies d'énergie. Avec toutes les difficultés que cela, le bâtiment, il est classé, donc on a du mal à le faire changer. Le bâtiment, il a été conçu de telle manière, il est occupé, donc il faut l'isoler, mais dans telles conditions. Le changement d'énergie... Quand vous avez fait à certaines époques beaucoup d'investissements où le chauffage était la variable d'ajustement, c'est-à-dire on mettait ce qu'on appelait vulgairement des grille-pains pour chauffer les maisons, on n'a pas de réseau, on n'a pas de ça. Donc c'est là où c'est dangereux, c'est compliqué. Les gens, ils habitent, certes, ils ont une facture énergétique qui devient de plus en plus insupportable. On est en train d'affiner une étude, mais M. Bruget la connaît parfaitement, sur la précarité énergétique. C'est quelque chose qui est en train de monter de manière... Alors, le transport pèse beaucoup. Il faut le reconnaître. Mais le transport et le chauffage, si vous enlevez ces deux poids, les gens ils se sentent libérés. Donc il faut qu'on travaille sur ces questions dans un contexte contraint. Moi, entre nous, construire une maison à énergie positive demain, ça devient facile. Les techniques existent, vous les alignez, mais dans l'existant, tout est à inventer chaque fois. Donc c'est tout le travail qu'on mène aussi dans TEPCV. On va lancer deux grands volets de diagnostic de bâtiments qui vont être portés à plus de 80% sur des copropriétés. Parce que les copropriétaires, on peut être... L'histoire du début du siècle avant disait que les propriétaires, c'était des nantis. On s'aperçoit que les propriétaires ne sont pas toujours des nantis. Et surtout dans des copropriétés, investir pour faire la bascule énergétique, c'est très compliqué. Donc on va accompagner ça en finançant des copropriétés. On va faire pareil dans le parc HLM. Parce que par définition... Le parc HLM accueille plutôt les gens avec des revenus en dessous la médiane du territoire. Et si on leur baisse leurs charges, leurs factures énergétiques, on redonne du souffle social et économique à ces familles-là, tout en décarbonant l'énergie.
Alors, si vous voulez bien, on reviendra sur le détail, un peu ce qui fait le détail des axes de cette convention TEPCV. On verra aussi... pourquoi le parc a été un des premiers territoires à signer cette convention et dans quel cadre ça s'est fait, ce qui explique cette signature. Mais on va faire une première petite pause musicale avant ça.
vibre mon corps, qui fait que chaque battement de mon cœur résonne et pousse à éclore. Celle qui illumine le ciel de mes nuits diluviennes, plus d'étoiles me poursuivant à mon réveil jusqu'ici. Tout allait si bien, l'impression de renaître, mais chaque pas me rapprochant de la ville m'amène à ne plus rien reconnaître. Où sont passés les arbres, où sont passées les fleurs? Où sont passés nos rêves, sûrement perdus ailleurs d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il en reste? Quelques rivières coulent encore, mais pour combien de temps? Combien de temps encore? Gaspillage inutile, puisque l'on puise dans ses réserves dites essentielles. Qui dit que c'est censé? Des vies pour viser l'artificiel, mais dit que ta pensée, avant de polluer le ciel, démonter la nature et oublier ce qui nous entoure. Le temps c'est de l'argent, c'est vrai j'oublie donc vas-y cours. Nature, toi qui as mélangé les couleurs, si pures, parfum d'amour rempli de candeur. Chaque jour, à tes côtés, reste un mystère, univers, une seule raison, celle qui fait que je respire. Nature, toi qui as mélangé les couleurs, si pures, parfum d'amour rempli de candeur. Chaque jour, à tes côtés, reste un mystère, univers, une seule raison, celle qui fait que je. Elle qui m'anime et m'émerveille sous une pluie tropique ou bien exposée au soleil. Les chants d'oiseaux pour seule musique mélancolique que l'on aime. Elle qui nous colle à la peau, comme pour moi les poèmes. Si fragile, parfois si dur, lors de tempêtes, laisse derrière elle quelques esquisses de peinture sur des paysages irréels. J'irai vers elle, lui tendre ma main, cueillir les fleurs inconnues, dormir sous les arbres bercés par le vent que d'autres emprisonnent. J'irai me laver dans les ruisseaux, les soucis que l'homme cultive. Je chercherai là où personne n'a cherché pour que tu revives. Toi, dame nature, que je touche comme les femmes une passion. Tu resteras dans mon cœur tant que je garde l'imagination. Machination, certains seraient prêts à te détruire. Aveugle, nous sommes des femmes et des hommes sans boussole et sans guide. En attendant que nos rêves s'égarent et que nous perdons le nord, je crie à toi, misère du monde, en espérant trouver de l'or caché sous un coin de paradis où tu existes encore. Ya, ya, ya. Nature, toi qui as mélangé les couleurs, si pures, parfum d'amour rempli de candeur. Chaque jour, à tes côtés, reste un mystère, univers, une seule raison, celle qui fait que je respire. Nature, toi qui as mélangé les couleurs, si pures, parfum d'amour rempli de candeur. Chaque jour, à tes côtés, reste un mystère, univers, une seule raison, celle qui fait que je. Qui a mélangé les couleurs, si pures, parfum d'amour rempli de candeur. Chaque jour, à tes côtés, reste un mystère, univers, une seule raison, celle qui fait que je respire. Nature, toi qui as mélangé les couleurs, si pures, parfum d'amour rempli de candeur. Chaque jour, à tes côtés, reste un mystère, univers, une seule raison, celle qui fait que je respire.
Une autre vie s'invente ici.
L'équilibre énergétique en question.
Et voilà, nous sommes toujours en compagnie de Florent Taris, directeur général des services du Parc naturel régional des Grands Causses, et de Christian Brugier, de la direction départementale du territoire. Alors, on a déjà bien commencé à évoquer le sujet de TEPCV. Peut-être, Christian Brugier, replacer dans le contexte national ce qu'est l'opération TEPCV.
Oui. Donc, 528 territoires ont été candidats à l'appel à projet territoire à énergie positive. Ça regroupait tant des communes que des communautés de communes, des départements, également des parcs naturels régionaux et des pôles d'équilibre PETR. Ces 528 territoires regroupaient 21 000 communes et concernaient 2/3 de la population française. Donc, on voit un petit peu l'implication des territoires dans ce type d'appel à projet. 212 lauréats ont été désignés et se verront attribuer une manne financière de 500 000 euros dans le cadre d'une convention qu'ils auront à signer avec le ministère de l'Écologie et du Développement Durable. Les 316 collectivités restantes seront soit des territoires en devenir, c'est-à-dire ce sont des territoires pour lesquels on a estimé que leur projet devait être amendé et complété de façon à pouvoir devenir lauréat, et également environ 200 bénéficieront d'un contrat local de transition énergétique puisque dans le cadre de leur candidature, c'était surtout des candidatures monoprojets et donc on pouvait difficilement concerner que ceci traduisait un territoire à énergie positive. Au niveau de Midi-Pyrénées, 20 territoires ont été lauréats, 19 sont en devenir, 10 contrats locaux seront signés. Les services de l'État, tant la Direction régionale de l'environnement et de l'aménagement et du logement et les directions départementales des territoires, ainsi que l'Agence de l'environnement et de la maîtrise d'énergie, ont aidé ces territoires à monter leur dossier de candidature et également à peaufiner leur dossier pour pouvoir proposer une convention à la signature.
Alors, je crois qu'il y a un contrat local qui est prévu sur le territoire du parc en plus de la convention.
Non, sur le territoire du parc naturel régional, la communauté de communes Larzac et Vallée est territoire en devenir.
Territoire en devenir, d'accord.
Voilà, est en train de compléter son dossier de façon à pouvoir être lauréat. C'est en bonne voie et probablement un contrat, une convention pourrait être signée d'ici la fin de l'année. En Aveyron, 5 candidats. La commune de Sainte-Geneviève, la communauté d'agglomération du Grand Rodez, pour lequel on signera des contrats locaux de transition énergétique, la commune de Sainte-Geneviève pour des notions de bois énergie, et la communauté d'agglomération du Grand Rodez qui souhaite créer un écoquartier sur un secteur déjà urbanisé. La communauté de communes Larzac et Vallée, que je viens d'évoquer, qui est donc territoire en devenir, le pôle d'équilibre territoire rural de Centre-Ouest Aveyron, qui devrait très prochainement signer sa convention puisque les dossiers sont prêts, et le parc naturel régional des Grands Causses, qui a ainsi pu, au travers de cet appel à projet, valoriser tout son investissement dans le domaine, et en particulier au travers de son PCET, et dont la convention a été signée le 29 juin 2015. Il faut savoir que c'était une des premières conventions en Midi-Pyrénées qui était signée. Elle était signée à Nantes. L'ambition du parc naturel régional a été évoquée précédemment, c'est obtenir l'autonomie énergétique en 2030.
Voilà, mais merci Monsieur Brugier pour ce tableau et notamment des actions entreprises au niveau départemental. Alors, Florent Harris, est-ce que vous pouvez nous dresser un bilan des actions qui ont été entreprises dans le cadre du plan climat énergie territoriale et nous dire, pour vous, Parc, en quoi l'action entreprise dans ce cadre avait facilité la signature de la convention TEPCV?
Lorsque le Parc s'est doté d'un plan climat énergie territoriale, il y a deux objectifs. Premièrement, la France s'est dotée d'un plan climat-énergie et l'idée, c'est le territoire, qu'est-ce qui va contribuer dans cette démarche nationale. Mais, si vous voulez, pour moi, l'échelle du parc, ça a été un aiguillon qui s'est levé de dire posons-nous des questions sur l'énergie sur notre territoire. Parce que chacun, avec sa propre approche, considérait, comme je vous l'ai dit au début, peut-être que ce n'était pas un souci sur ce territoire, l'énergie, parce qu'on voyait des barrages, on voyait des éoliennes, on voyait des panneaux photovoltaïques, et puis on disait, vous savez, peu cher, on ne consomme pas beaucoup, alors ce n'est pas un enjeu. Et la première action du plan climat-énergie, ça a été d'interpeller les gens, quoi, de regarder. Les chiffres que vous avez évoqués, 2200 de production, 1200 de consommation, 800 de production, le poids des transports, etc. Ça a d'abord permis un éveil collectif. Un éveil collectif des enjeux, des collectivités locales, etc. Et le premier gain du PCET, ça a été celui-là. C'est qu'à un moment, d'ouvrir les yeux sur les enjeux et de sensibiliser les enjeux. Après, il y a eu des actions très ponctuelles et qui aujourd'hui sont en train d'amener leurs fruits. Le premier, c'est des séries de diagnostics qui ont été menées sur des bâtiments communaux, notamment. Aujourd'hui, on a un mouvement qui est en train de s'enclencher chez les communes. Je pense que si on se projette dans 10-12 ans, on ne reconnaîtra plus nos bâtiments communaux parce qu'aujourd'hui, et si j'ai envie de dire, pour afficher la continuité, TEPCV accélère ce phénomène. Mais aujourd'hui, la sensibilisation à travers divers diagnostics fait que les communes ont compris que c'est un enjeu. Je vais vous donner un chiffre. Vous savez, on interpelle à longueur de journaux la hausse des frais de fonctionnement des communes et des frais de personnel. Sur 10 ans, plus 50%. C'est énorme. Ouais. L'énergie, c'est plus 380%. Donc pour montrer, ça a sensibilisé les gens et tout le monde est rentré là-dedans. Il y a une action qui est absolument géniale, qui a permis de développer les choses et qui se poursuit, c'est les défis de famille à énergie positive, où sous forme assez ludique et très éducative, on a sensibilisé les populations. Parce que, M. Brugier le disait tout à l'heure, on peut toujours dire c'est l'affaire des élus, c'est l'affaire des collectivités, mais c'est l'affaire de chacun d'entre nous. Si je marche à pied au lieu de prendre ma voiture, si je chauffe à 18 degrés au lieu de chauffer à 25, etc., ça a un impact collectif. Donc, le grand étape, ça a été d'éduquer le territoire, de former les gens, de sensibiliser les gens à tout ce que ça voulait dire.
D'ailleurs, on peut peut-être rappeler que le défi famille énergie positive, ce n'est pas quelque chose qui était limité dans le temps, puisque non. L'opération se renouvelle. Et donc, on peut aussi appeler nos concitoyens, les auditeurs, voilà. à s'inscrire s'ils le souhaitent.
Ils vont sur le site du parc. Et il y a une icône où ils peuvent s'inscrire pour la campagne 2016. Premièrement, ils vont s'amuser parce qu'ils vont se rencontrer. Ils vont apprendre parce qu'on va leur apprendre plein de choses sur l'énergie. Mais surtout, ils vont aussi s'apercevoir comment leurs pratiques quotidiennes peuvent faire évoluer leur consommation énergétique. Sur les premières échéances, la moyenne, c'est moins de 12% de consommation. Sans rien changer, c'est-à-dire on change rien. On pratique, on utilise différemment sa zone de vie et on a un impact immédiat qui se traduit en chiffres. Parce que les chiffres, ça permet de parler, mais au-delà, on s'aperçoit qu'on peut même mieux vivre avec moins de 12%. Donc, je disais, cette action a été formidable. Et aujourd'hui, comme l'a dit M. Bruget, TEPCV est venu... on est en période de Coupe du Monde. Peut-être qu'on a marqué un essai avec... par les temps qui courent, on n'en marque pas beaucoup. Donc, on a marqué un essai avec Territoire, avec le PCET, et on est en train de le transformer à TEPCV, clairement. On est en train de passer un cap. L'opérateur Chaleur-Bois, etc., il était évoqué de nos voeux, plein d'innovations sur la mobilité, etc. On est vraiment dans cette dynamique, et une fois de plus, quelque chose de très structurel et de pas ponctuel. On est en train de vraiment embrayer durablement les actions. Surtout que des actions menées sur les territoires comme les nôtres interpellent d'autres structures. La région vient de mettre en place deux plans, notamment pour les collectivités locales, parce que ici on avait une difficulté, c'est qu'on avait des diagnostics qui montraient qu'il fallait rénover les bâtiments et c'était rentable, le ratio économie sur l'investissement, et pourtant les collectivités avaient des petits budgets, avaient parfois du mal. La région vient de doubler les aides, et de débloquer des aides. Résultat, on a une accélération. La Caisse des dépôts vient de mettre des plans de financement, les soldes en emprunt à des taux défiant toute concurrence, à moins de 2%. Donc du coup, on a une accélération. Disons que, pour faire simple, on attend très souvent que ça arrive d'en haut. Pour moi, l'action que la ministre Ségolène Royal a engagée avec TEPCV, c'est dire « moi j'attends que ça vienne d'en bas ». Et si ça vient d'en bas, je mettrai en place les outils au plan national pour embrayer. On a même des annonces qui devraient arriver dans les jours qui viennent sur doper TEPCV sur les domaines de l'économie circulaire. On sera au rendez-vous, mais elle va proposer ses outils parce qu'on y a, genre lors de sa visite, sur la méthanisation, etc. Je ne sais pas si vous avez vu les évolutions réglementaires qui sont arrivées derrière. C'est directement lié à ce schéma-là.
Alors, dans l'article 2 de la Convention territoire énergie positive pour la croissance verte, donc TEPCV, dans cet article détaille en fait les dépenses éligibles au programme. Il y a 6 domaines d'intervention qui ont été listés. En premier lieu, la réduction de la consommation d'énergie, donc vous l'avez évoqué, dans le bâtiment et l'espace public. La diminution des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions liées au transport. Le développement de l'économie circulaire et de la gestion durable des déchets. La production d'énergie renouvelable locale. La préservation de la biodiversité, la protection des paysages et la promotion d'un urbanisme durable. Et enfin, la promotion de l'éducation à l'environnement, de l'éco-citoyenneté et la mobilisation des acteurs locaux. Ça aussi, vous l'avez évoqué. Mais alors, comment est-il possible, parce que c'est un programme quand même qui est très ambitieux, comment est-il possible de mener des actions significatives dans tous ces domaines avec un appui financier de 500 000 euros pour des dépenses qui sont subventionnées au maximum à 80%?
Une fois de plus, c'est le point de départ de la démarche. Parce que Territoire Énergie Positive est venu combler un vide dans une chaîne de décision et de financement. Aujourd'hui, on a des outils pour financer des travaux. On a des outils pour financer des modes de transport. Mais on n'avait pas le point de départ qui était une alchimie entre la sensibilisation... l'étude technique est précise pour basculer dans le réel et dans la faisabilité. C'est-à-dire aller au-delà de la faisabilité, parce que vous savez, des études théoriques sur un territoire, on en a beaucoup. Là, on est dans l'opérationnel. Donc, je vous reprends le cas de nos copropriétés. On va leur financer à 80% une étude qu'elles n'auraient pas eu les moyens de financer. Mais si cette étude est crédible, elle ouvre la porte à d'autres outils, à d'autres financements. Donc 500 000 euros, c'est le premier euro de peut-être 15, 20, 30 millions d'investissements demain sur le territoire. Vous voyez. On fait un diagnostic sur un bâtiment public, 2 000 euros. on en finance 1 600 €. Disons que même le maire le plus récalcitrant à ces visions-là, il y va. Ça lui coûte 400 €, il y va. Mais le lendemain, on lui montre que ça va être rentable, que ça va donner l'activité locale, ça va être rentable pour son budget communal et qu'il aura des subventions derrière. Résultat, il y va. Donc résultat, en ayant mis 1 600 €, on va peut-être générer 20, 30, 40, 500 000 euros de travaux. Vous voyez, c'est ça la mécanique TEPCV.
Alors si on prend par exemple l'axe de la réduction des émissions à gaz à effet de serre et des pollutions liées au transport qui, dans l'ensemble de la consommation, représente un des postes les plus importants, oui, avec le bâtiment, qu'est-ce qu'il est possible de faire concrètement dans ce domaine-là ? Sur le territoire, hein, j'entends. Hein.
Alors, on est en train de mener, de travailler de front sur plusieurs sujets. Premièrement, on s'aperçoit qu'il y a un axe structurant de ce territoire, je ne vous l'apprendrai pas, c'est l'axe qui, grosso modo, va de Vabre-l'Abbaye à Saint-Germain. Sur cet axe-là, il faut qu'on arrive à développer des méthodes de transport cadencées sur les périodes matinales et en fin de journée, parce qu'on a beaucoup de mouvements. Et là, c'est basculé sur des solutions qu'on voit sur d'autres territoires, de bus qui de manière cadencée, vous savez que toutes les 20 minutes...
Des navettes, en fait.
Des navettes, mais sur la partie matin et soir. Voilà. Donc, tout ça, ça impose des travaux, des analyses, des études. TEPCV permet d'enclencher cela sur la faisabilité. Et à côté de ça, pour vous montrer, on a des crédits à l'échelle du Massif central pour passer dans la réalisation. Donc aujourd'hui, on est en train de montrer la nécessité de calculer les flux, les possibilités, etc. Mais quand on a fait cet axe-là, on n'a pas réglé le problème de transport du territoire parce qu'il faut arriver à cet axe-là si on veut l'utiliser, ou alors il faut pouvoir bouger sur le reste du territoire. Et je reviens sur notre densité qui est à la fois notre faiblesse et notre atout. On ne peut pas imaginer des bus qui vont pour porter une personne vers une personne. Donc on est en train de développer divers outils. Le premier, c'est une expérimentation qui est sur le Saint-Africain en cours, qui s'appelle Réseau Pouce, où on organise le système. Certains diront qu'ils n'ont rien inventé, hein, c'est l'autostop. Mais en fait, on s'aperçoit que l'autostop, il mérite aussi d'être organisé. Et ça, ça vient en complément avec le covoiturage. Alors là aussi, le covoiturage est complémentaire. Parce que le covoiturage, c'est souvent un transport qu'on a programmé, qu'on a planifié. Donc on va utiliser le covoiturage. L'autostop est plus spontané et c'est pour ça que le système est plus léger. On va travailler sur les zones plus urbaines, plus denses, sur le développement de vélos électriques. À la fois en prêt ou en achat, enfin, il y a plusieurs dispositifs, parce que le vélo électrique est un mode qui peut s'adresser à tous, y compris aux populations les plus âgées. Donc voilà, ça c'est des choses, c'est beaucoup de petites choses qui peuvent paraître gadgets parfois, mais quand on les met bout à bout, c'est comme ça qu'on utilise un peu moins sa voiture et qu'on fait un peu moins souvent le plein et qu'on est un peu moins dépendant énergétiquement.
Ça veut dire que la mise en place d'infrastructures en matière de transport, par exemple, elle s'accompagne également pour que ça fonctionne d'une démarche éco-citoyenne, en fait, d'une certaine manière.
J'ai presque envie de vous dire, c'est l'inverse. On n'est pas dans une époque où on va, surtout sur des territoires ruraux comme nous, c'est très complexe. Hein. C'est-à-dire faire un tramway à Montpellier ou à Toulouse, c'est facile. Il y a plein de gens qui habitent, donc au milieu des maisons, vous passez un outil de déplacement et les gens ils montent dedans. Chez nous, il faut qu'ils fassent des kilomètres et des kilomètres pour se remplir. Donc, pour nous, c'est plutôt la pratique, la démarche éco-citoyenne qui va nous permettre, un, d'être positif en termes énergétiques, mais il ne faut pas avoir l'œil uniquement sur l'aspect énergétique. Il faut aussi le bien-être et le bien-vivre des gens, et le vivre ensemble des gens. Donc pour nous, le premier pari, Réseau Pouce, c'est d'abord que les gens aient une solution de transport, qu'ils n'ont pas forcément. Donc qu'ils puissent habiter à n'importe quel endroit du territoire où ils ont envie de vivre et qu'ils pourront se déplacer vers les services, les commerces, tout ce qu'on peut imaginer. Ou aller voir des amis, parce qu'on peut se déplacer pour avoir des amis, on n'est pas obligé de se déplacer pour aller travailler, même si c'est très agréable d'aller travailler. Et au-delà de ça, on est en train, par TEPCV, d'essayer de créer des conditions pour que ça soit possible, que tout cela devienne possible. Mais la démarche citoyenne est essentielle dans un territoire à énergie positive. On peut mettre tout ce qu'on veut, si à un moment les gens n'adhèrent pas, c'est pour ça que dans la convention de TEPCV, il y a un fil rouge qui est la sensibilisation permanente, la communication, l'échange avec les gens pour qu'on comprenne ces enjeux-là. Vous l'avez dit, vous avez dit c'est très compliqué de faire ces 7 points. Ils sont très contradictoires. Vous savez, ce matin, j'ai eu un mail sur ma boîte mail. Je vais arrondir les termes parce qu'ils n'étaient pas tous très sympas, mais qui consistait à dire si on aime les paysages, on n'aime pas les éoliennes. Voilà. Quand on a dit ça, on a tout dit ou on n'a rien dit. Quand je prends l'enjeu de production d'énergie, il faudra bien que je mette des outils de production d'énergie. J'ai rien ni pour ni contre les éoliennes. C'est une des solutions d'énergie. Si on, certains sont contre les panneaux photovoltaïques, d'autres sont contre les barrages hydroélectriques. Mais si on veut être autonome et avoir une énergie propre, il faudra trouver des solutions. Il faudra trouver le point d'équilibre. L'idée, ce n'est pas qu'une logique bouffe l'autre. C'est trouver le point d'équilibre qui est le cœur du développement durable entre l'économique, le social et l'environnemental.
Bon, on en parlait avec Christian Brugier hors micro tout à l'heure avant l'émission, mais sur des projets comme ceux-là, si on ne recueille pas l'adhésion des habitants du territoire, c'est très difficile de mettre en place...
Je suis d'accord. Après, la question, c'est qu'est-ce que c'est l'adhésion du territoire ? C'est un vrai débat sociologique. Nous, aujourd'hui, tout ce qu'on fait à travers TEPCV, mais j'ai envie de dire plus globalement le parc, on rend tout transparent. On rend tout pour partager les problématiques à les gens. Parce que vous savez, quand il y a un conflit sur un projet éolien, quand il y a un conflit, etc. Moi, j'ai la faiblesse de penser qu'il n'y a pas les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. C'est qu'il y a des gens qui veulent essayer de régler un problème d'une manière et qu'il y a d'autres qui pensent qu'il faut la régler. Donc je crois que le dialogue, le discours, la communication la plus objective possible doit permettre de trouver des consensus sur des questions qui sont essentielles pour les gens. Parce que moi, aujourd'hui, je vois des problématiques qui se pèsent où on se dit, mais demain, quand je dis demain, c'est 10-15 ans, on a des points durs qui apparaissent sur ces questions-là. Des points durs qui peuvent mettre en péril le territoire sur certaines questions. Le péril, il est possible dans le tout. Si on met 10 000 éoliennes sur le territoire, on aura un péril. Si on ne fait rien pour débloquer des projets d'énergie renouvelable sur le territoire, on sera en péril aussi. Vous voyez, ce que j'ai une vision très équilibrée des choses et pas du tout dogmatique. Et TEPCV, pour moi, j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup parce que, par exemple, l'opération Chaleur-Bois, si on la développe, mais vous savez, tout le monde parle des éoliennes, mais il y a des gens qui sont contre les chaudières à bois. Ils ont peut-être raison. Donc on va aussi soutenir les réseaux chaleur-bois, parce qu'on pense que c'est un des sujets les moins polémiques qui soient, les plus consensuels, parce qu'entre le monde agricole, les habitants qui vont avoir leur facture baissée, la valorisation du bois, avec la forêt qui grignote tous les ans un peu nos terres de pâture, etc. On pense que c'est un sujet de cohésion sociale et de cohésion humaine autour de ces questions énergétiques. On va le développer et après on essaiera d'aller sur d'autres sujets, peut-être moins faciles a priori, mais il faudra qu'on y aille immanquablement. Sinon on sera dans le rapport de force. Mais TEPCV, 500 000 euros, c'est pas que de l'huile dans les rouages, c'est des outils pour nous permettre de déployer. Sur la mobilité, Réseau Pouce, c'est 1200 euros, 2000 euros par an. Mais il y a déjà presque 200 inscrits à Sainte-Afrique. Ça prouve bien, sur Sainte-Afrique, la communauté de communes de Millau, la commune de Saint-Georges, Luzançon, a voulu y rentrer, la communauté de communes de Millau se positionne d'élargir le périmètre. Ça prouve bien qu'avec des choses simples, on n'est pas obligé d'avoir toujours des projets pharaoniques, etc. Mais il faut équilibrer, voilà.
Très bien. Donc là, on est pour une bonne part dans des projets à court et moyen terme, des choses qui sont déjà à l'horizon 2017. En tous les cas, l'ensemble des thématiques qu'on a évoquées, elles seront développées dans les 7 émissions qui vont suivre celle-ci. La prochaine sera enregistrée à Radio Sainte-Afrique. Elle concernera la rénovation des bâtiments. Il me reste à vous remercier tous les deux. Merci Florent Harris. Merci Christian Brugier. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis et à très bientôt sur les ondes de Radio Larzac et de Radio Sainte-Afrique.